Dharma et Sangha jusqu'à l'éveil et j'entre en refuge par les bienfaits, les dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Ahom. Nous avons précédemment vu les préliminaires dits communs, qui sont communs aux différentes approches, aux différentes voies. Nous allons aujourd'hui aborder les préliminaires spéciaux ou particuliers au Vajrayana. Le Vajrayana, la voie adamantine, la voie fulgurante, a des moyens particuliers dont ces préliminaires. Il y a des questions sur le bon usage de ces préliminaires. Pour le bien comprendre, entrons déjà dans l'intelligence du Vajrayana comme voie, on peut dire, initiatique ou comme voie de la transmutation symbolique, utilisant des symboles, et transmutation des énergies. Donc, cette notion, cette dimension de transmutation, elle est spécifique et propre au Vajrayana. Elle est extrêmement opérative, puissante, rapide. C'est un outil extrêmement efficace, une approche extrêmement efficace, mais qui nécessite d'être bien utilisé, qui nécessite une préparation, un apprentissage. C'est un des propos de ces préliminaires. On en parle comme des préliminaires, mais ce sont en fait aussi le cœur de la pratique du Vajrayana, au sens où ils préparent, ces préliminaires préparent le terrain, ils nous rendent aptes à la transmission, ils nous rendent réceptifs. Et en l'absence de ces préparations, en l'absence d'un terrain qui a été bien préparé, il est très, très difficile de pouvoir véritablement rentrer dans ces pratiques de façon profonde et d'en recevoir tous leurs bienfaits. Ne vous précipitez pas vers la méditation de Mahamudra. Cultivez d'abord dans les Nunjo le terrain propice à la naissance de qualités positives, nous dit Jamdun Trungpa Lodre Taye. Donc, ces préliminaires, Nunjo, Nunjo signifie préliminaire, sont aussi et particulièrement les préliminaires au Mahamudra, les préliminaires au Dzogchen, les préliminaires à ces pratiques les plus fondamentales et essentielles, qui consistent à réaliser la nature de l'esprit, expérience. Et Jamdun Rinpoche dit, ne vous précipitez pas vers... Alors, ces grandes pratiques que sont Mahamudra, que sont Dzogchen, il est bien d'avoir une forte inspiration, d'y aspirer, mais aller trop vite vers ces pratiques toutes séduisantes dans leur caractère fondamental qu'elles puissent nous paraître, aller trop vite vers celles-ci sans la préparation nécessaire est une sorte de peine perdue et vouée à l'échec. Donc ne vous précipitez pas, mais sachez cultiver le terrain propice à la naissance des qualités positives, c'est en sachant aller pas à pas que finalement l'on progresse rapidement. Les Nunjo sont les préparations spéciales aux pratiques du Vajrayana en général et de Mahamudra ou de Dzogchen en particulier. Supposons que l'éveil soit l'Amérique et que nous soyons en Inde, ou inversement si vous voulez. La pratique de Mahamudra ou de Dzogchen est l'avion permettant de nous y rendre, dans l'avion, la voie rapide. Nous aspirons à faire le voyage, mais il nous faut encore de l'argent pour acheter le billet d'avion, pour prendre cet avion de Mahamudra ou de Dzogchen. Il faut avoir suffisamment pratiqué les bienfaits et l'intelligence immédiate. Les deux développements, le bienfait de vertu, puis l'approche de l'immédiateté, de la non-dualité. Donc, entrer dans ces pratiques est l'objectif des Nando, ou préliminaires spéciaux aux transmissions de Mahamudra et de Dzogchen. Sans avoir fait au moins un Nando, nous allons voir, c'est une pratique que l'on peut faire plusieurs fois, mais sans l'avoir fait au moins une fois, il n'est pas possible d'utiliser correctement ces moyens extraordinaires que sont Mahamudra ou Dzogchen. Ou ceux qui peuvent profiter de leur transmission sans avoir fait au moins un Nando sont extrêmement rares. Ces préliminaires préparent le terrain de notre esprit. C'est là la préparation du terrain. Dans la transmission de Mahamudra Dzogchen, dans la transmission du Vajrayana, il y a une dimension personnelle, interpersonnelle, qui est le propre de la voie initiatique. Et les Nando préparent, nous développent notre sensibilité, notre réceptivité. Lorsque le sol est bien préparé, que l'on a enlevé les cailloux et les mauvaises herbes, puis fertilisé la terre, les graines semées poussent sans difficulté. Dans un bon terrain, les graines poussent et fructifient sans difficulté. De façon similaire, les Nando préparent à recevoir la transmission en dissipant les voiles et en faisant pratiquer le double développement de bienfaits et d'intelligence immédiate. Donc nous sommes déjà familiers avec cette notion de double développement, cultiver un comportement sain, le développement de vertus, et dans les vertus, petit à petit, naissent l'expérience directe, immédiate, le développement de gnose, le développement d'intelligence immédiate, d'expérience première, il a plusieurs noms. Recevoir la transmission de Mahamudra ou de Dzogchen sans être bien prêt expose au danger de ne pas comprendre vraiment l'enseignement et de renaître dans l'une des sphères célestes sans forme ou pire, sous une forme animale stupide. Donc, cela peut sembler, on peut se demander comment, pourquoi. La pratique du Mahamudra de Dzogchen est somme toute extrêmement subtile. Et s'il n'y a pas cette réceptivité qui nous permet d'entrer dans le fond du fond de cette pratique, il est possible de dévier, il est possible de se fourvoyer très facilement. Plus la pratique est informelle, ce qui est le cas du Mahamudra ou du Dzogchen, plus il est aisé, facile de se méprendre et de dévier. Parmi les déviations, ici, Vajradhara Kalyani Boshi dit, de Dieu sans forme, des états de conscience sans forme. On pourrait prendre Mahamudra Dzogchen, son expérience, comme étant l'espace infini, ou la conscience infinie, la conscience cosmique, comme disent certains, ou encore une sorte de vide, rien, ou d'absence de conception, de non-conception, Ce sont les états des dieux sans forme, ce sont des états samsariques, et ce serait une déviation que de prendre ou de croire qu'il s'agit là de l'expérience authentique du Mahamudra ou du Dzogchen. Et Rinpoche, Kalon Rinpoche nous dit aussi, on peut aussi naître comme une naissance animale, stupide. Alors, lorsque l'on dit qu'il n'y a dans la pratique du Mahamudra ou du Dzogchen pas d'effort, pas d'activité mentale, on peut rester dans un état d'hébétude, renaître dans un état de conscience stupide. Aborder un tel enseignement, aborder le Mahamudra ou le Dzogchen, sans la préparation nécessaire et sans la connexion suffisante, empêche par manque de préparation une pratique réelle et profonde. Faute de succès, le risque est alors de penser que les enseignements n'ont pas de pouvoir ou que le lama n'a pas d'influence spirituelle, et de faire naître des conceptions erronées très graves. Il est donc essentiel d'aborder ces enseignements avec la maturité et la préparation nécessaires. Là aussi, un gros écueil, si l'on n'a pas la préparation qui nous rend véritablement réceptifs et qui nous permet d'entrer dans l'expérience authentique, on peut tout simplement, au bout d'un moment, avoir l'impression qu'il y a, ça n'a pas d'effet, pas de valeur, ou, et non seulement ne pas avoir de bienfait, mais même déprécier l'enseignement, déprécier le lama, ce qui est une façon finalement de se couper même de la voie. D'où l'importance de ces préparations qui nous font mûrir et qui font que la transmission peut avoir lieu de façon effective et opérative. En quelque sorte, les Nanjo construisent la route sur laquelle il est ensuite possible de voyager. Pour rouler en voiture, il faut d'abord une route. Qui plus est, c'est une bonne chaussée dépierrée qui permet d'avancer rapidement et sans rencontrer d'obstacles. Alors que sur une route qui n'est pas nivelée, même une bonne voiture ne peut aller loin. Préparer ainsi la voie et la fonction des Nanjo. Ils sont quatre ou cinq. Alors, il y a dans les préparations, les préliminaires que sont les Nanjo, quatre, cinq ou six même pratiques. Ça dépend des traditions et de la façon dont on les compte. Le nom qu'il aurait souvent donné est les 100 000. Pourquoi ? Parce que chacune de ces pratiques est répétée 100 000 fois. Il y a une accumulation d'un nombre qui donne à la pratique son intensité, 100 000. Chacun d'eux consistant en 100 000 répétitions d'une pratique. Alors, ce sont les 5 ou 6, la pratique spéciale du refuge associée à des prosternations, donc une entrée en refuge essentielle avec une dimension du corps, de la parole et de l'esprit, et pour le corps, ce geste du refuge qu'est la prosternation. Il y a aussi bodhicitta, l'esprit d'éveil, éveiller son cœur et son esprit, ou l'esprit du cœur, bodhicitta, qui est compté comme une, auquel cas refuge et bodhicitta font deux. Puis la purification de Vajrasattva, accompagné de la récitation du mantra à 100 syllabes, le mantra de Vajrasattva. Après les bases que sont refuge et bodhicitta, il y a dans les Nanjo le dévoilement et le développement. Dévoilement des illusions, des passions, du karma négatif, c'est ce qui est accompli dans la pratique de Vajrasattva, une sorte de purification, mais peut-être mieux dire de dévoilement, d'enlèvement des voiles et des empêchements. Et ensuite, il y a la pratique dite du mandala, l'offrande de mandala, qui, elle, stimule les développements dans la générosité, dans le don, dans l'offrande, le lâcher-prise, et qui développe vertu, puis expérience première. Et il y a ensuite, généralement, directement, ce que l'on nomme le yoga du lama. Entre les deux, juste avant le yoga du lama, dans la tradition Champa, il est aussi une pratique de purification, d'ouverture particulière que l'on nomme l'enceinte vide de A. Et ensuite, finalement, toujours le yoga du lama qui est associé à une prière qui nous fait entrer dans la présence, dans l'inspiration de la lignée et du lama source. Donc, c'est ainsi que nous avons les 5 ou 6 préliminaires. Le premier préliminaire est refuge et prosternation. C'est une pratique spéciale du refuge qui permet d'établir une très forte connexion avec l'éveil et la lignée. Donc, entrer en refuge entrant en le refuge des trois joyaux, entrer en le refuge des trois sources, entrer en le refuge du lama source, entrer aussi en le refuge de la nature, de l'éveil, Trikaya, mais particulièrement l'entrée en refuge ici établit le lien, la connexion avec la lignée, avec toute la lignée de transmission à laquelle on se connecte, à laquelle on se rattache dans cette pratique du refuge. Pour qu'elle s'instaure efficacement, cette connexion, 2 éléments sont nécessaires. D'une part, notre confiance et notre aspiration, que nous pouvons comparer à un anneau, et d'autre part, l'influence spirituelle et la compassion des Bouddhas, semblables à un crochet. Le crochet est toujours là, l'influence spirituelle de l'éveil est toujours là, mais pour qu'il nous accroche et qu'il ait de l'emprise sur nous, encore faut-il l'anneau de notre confiance. Cette confiance nous relie profondément au refuge et permet d'écarter les obstacles tout en regroupant les facteurs favorables. C'est pourquoi parmi les 4 préliminaires, cette pratique spéciale du refuge est le premier. Le premier préliminaire ou la première pratique. Elle développe notre connexion, notre confiance, et c'est l'occasion aussi de se familiariser avec l'exemple de tous les ancêtres, de se rattacher, de se raccorder à leur exemple, à leur influence spirituelle, en éveillant notre confiance, notre ouverture du cœur, notre confiance. En présence du domaine de refuge que nous nous représentons devant nous, nous-mêmes et tous les vivants entrons en refuge en les 3 joyaux et les 3 sources. Les 3 joyaux sont le refuge extérieur, les 3 sources le refuge intérieur, les 6 3 joyaux, 3 sources réunis en la personne du lama constituent le refuge secret, et l'éveil des 3 corps du Bouddha, l'éveil proprement dit, le refuge densité ou refuge absolu. Il y a ainsi le niveau extérieur, intérieur, secret et fondamental ou densité. Prendre ainsi refuge ou entrer ainsi en refuge est une pratique très puissante qui se fait avec tout notre être, corps, parole et esprit. Avec l'esprit, nous imaginons la présence du domaine des refuges ou du domaine du refuge et générons une profonde confiance et aspiration. Avec la parole, nous récitons la formule du refuge et avec le corps, nous faisons les prosternations. Donc, il y a ainsi une participation de toute notre personne dans ces trois dimensions, corps, parole, esprit. Et après la pratique du refuge, il y a souvent aussi une pratique particulière de bodhicitta, différentes formes, mais dans la tradition Champa, nous l'accomplissons associée à la pratique d'immense bonté, au sadhana du Bouddha de l'amour, de la compassion, Chenrezig. Petit moment de méditation si vous voulez. Une petite pause. Le deuxième ou troisième, suivant la façon dont on compte, préliminaire, Nanjo, est la purification de Vajrasattva. Bien que nous n'en soyons pas conscients, nous avons depuis des temps sans commencement accumulé dans le courant de notre esprit une quantité inimaginable de karma négatif et de voile, une sorte d'imprégnation, de propension. Il en est complètement imprégné. Notre esprit, nous en sommes complètement imprégnés. Et sans les dissiper ou les purifier, il n'est pas possible de progresser vers l'éveil. La progression vers l'éveil et même la dissipation, la dissolution de ces facteurs conditionnants. Notre esprit pourrait être comparé à un linge sale qui, pour recevoir une teinture, la transmission dans l'image, a besoin d'un nettoyage. Un linge sale ne peut recevoir aucune teinture, alors qu'un linge blanc bien propre peut prendre n'importe quelle couleur. Donc, la nature de l'esprit est en quelque sorte ce linge, mais qui est imprégné de saleté, ou de, qui est entaché de toutes sortes d'imprégnations que l'on va laver, que l'on va dissiper, dissoudre, déjà dans une certaine mesure. Et propre, le linge devient réceptif, devient le réceptacle approprié à la transmission. La pratique de Vajrasattva, faite avec une grande sincérité et sans distraction, opère cette purification, ce nettoyage. Vajrasattva est un aspect du Bouddha qui exprime la pureté fondamentale de l'éveil et met en œuvre son pouvoir de purification. Vajrasattva est l'éveil dans sa dimension de pureté primordiale et sa pratique met en œuvre le pouvoir de purification de l'éveil. Une grande influence spirituelle est liée à sa pratique. Quand nous avons un vêtement sale que nous souhaitons laver, il faut utiliser de l'eau, du savon et nos mains pour frotter. De façon similaire, pour opérer la purification grâce à cette pratique, il faut la combinaison de plusieurs éléments qui sont l'influence spirituelle de Vajrasattva, le pouvoir de son mantra et les qualités de notre pratique. Donc, ce sont ces différents éléments qui, mis en œuvre ensemble, opèrent véritablement la dissolution des empêchements, des voiles cette purification. Cette approche pourrait sembler similaire à l'idée chrétienne de laver les péchés. Mais la différence est que les chrétiens pensent que vêtements et eau viennent de Dieu qui les a créés, alors que le Dharma ne considère pas Vajrasattva de cette manière. Alors, dans le Dharma, nous sommes dans une vision, un contexte de thérapeutique, de thérapie fondamentale. Les saletés ne sont, viennent pas d'un péché originel ou sont une maladie, sont un dysfonctionnement, sont une disharmonie. C'est important de bien voir cette distinction car nous ne sommes pas dans un contexte de culpabilité et dans une mentalité juridique avec le jugement, la culpabilité. Et tout ça donne. Purifier ces empreintes négatives, purifier les samskaras qui sont source de passion, n'est pas purifier des péchés au sens chrétien ou peut-être même monothéiste d'une façon plus générale. Notre esprit est par essence vide. Il n'a ni forme, ni couleur, ni quelques caractéristiques que ce soit. Et les empreintes négatives, les imprégnations qui génèrent pensées et émotions sont également vides, invisibles, sans forme ni couleur. Pourtant, elles sont là et ont la capacité de nous nuire et de nous conditionner. Elles existent en tant que multiples facteurs interdépendants qui illusionnent notre esprit. Le jeu de facteurs interdépendants qui, dans leur fonctionnement, nous conditionnent. Pour les purifier, la pratique de Vajrasattva utilise d'autres facteurs interdépendants qui sont tous les aspects de la méditation, ce que nous venons de mentionner. Dans la pratique, la purification s'opère au moyen de quatre forces associées aux aspects de la pratique de Vajrasattva. Il y a quatre forces de purification, quatre forces de dévoilement, celle du regret des actes négatifs antérieurs. Il y a d'abord regret, comme si l'on se rendait compte que l'on s'est empoisonné, que l'on est empoisonné. Ah, j'ai pris du poison, je sais. Puis, il y a celle du support, le support de purification, qui est constitué par les différents engagements que l'on a pris. Puis, la force de l'antidote, qui consiste en les représentations et récitations de la méditation proprement dite, et la force de la résolution, qui est celle de ne pas réitérer les actions ou comportements négatifs. Ensemble, ces quatre forces permettent une purification complète, quels que soient les actes négatifs que l'on a pu commettre. Donc, ce regret, puis le support que constituent les engagements et la pratique. Il y a différentes façons de présenter les quatre forces. Et puis, l'antidote, qui est la présentée comme la pratique proprement dite, et finalement, la résolution de ne pas réitérer, l'attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas négatifs. On peut ainsi dissoudre, dissiper tous les actes négatifs, tous les karmas négatifs. En Occident, beaucoup de personnes admettent que la méditation est une bonne chose. Mais la récitation d'un mantra semble souvent curieuse. Si l'esprit est bien le plus important, il n'y a pas que celui-ci, car nous sommes globalement constitués d'un corps, d'une parole et d'un esprit. Et il est important de mettre en œuvre tous ces constituants, corps, parole, esprit. Méditer avec l'esprit, réciter avec la parole le mantra et garder la posture adéquate avec le corps. La récitation sans distraction du mantra est importante car elle a un pouvoir particulier sur l'esprit. En fait, le mantra est son vide, tenjal, interconnexion, facteur interdépendant, co-émergence. La récitation sans distraction du mantra, tout absorbé en celle-ci, est l'élément qui, dans le jeu de ces facteurs interdépendants, met en œuvre le processus de purification. Par ailleurs, les voiles et les empreintes négatives qui sont à purifier sont aussi tenjal, interdépendance. Ils sont vides dans ce sens. C'est pourquoi leur purification est possible. Si quelque chose existait d'une façon véritablement solide, sa purification ne serait pas vraiment possible. L'interaction des deux registres de Tenjal, l'interdépendance des conditionnements et l'interdépendance de la pratique, avec dissout et opère la purification. C'est ainsi que la pratique peut avoir un effet purificateur réel. Comprendre vraiment Tenjal et vacuité. Interdépendance et vacuité sont des synonymes. Les comprendre vraiment est être près de l'éveil. Mais c'est en ne les comprenant pas que nous errons dans le samsara. En tout cas, le plus important est que l'esprit soit vraiment présent dans la récitation. La récitation du mantra, une récitation sans distraction, aucune, purifie, on dit, un néon de négativité, alors que le réciter très longuement d'un esprit distrait n'a guère d'effet. Un moment de méditation. Le nendro suivant est l'offrande des mandalas. Après la purification, le dévoilement, vient le développement. Après la purification de Vajrasattva, qui défait les éléments négatifs, il est important de développer les éléments positifs, c'est-à-dire de pratiquer le double développement de bienfaits ou de vertus et d'intelligence immédiate ou de gnose. Telle est la fonction de la troisième pratique préliminaire, l'offrande des mandalas. Dans cette pratique, nous faisons offrande aux trois joyaux et aux trois sources. Ils sont des aspects de l'intelligence primordiale, absolument libre de tout attachement à ce que nous pouvons leur offrir. Mais nous leur dédions pourtant tous les biens et toutes les richesses de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'étant profondément assujetti à la saisie d'un « je » et pensant en termes de « moi », nous avons le sentiment d'exister individuellement. Et à partir de cette saisie égoïste, nous nous attribuons différentes choses et pensons « mes biens, mes richesses, ma maison, ma famille, mes amis, mon corps, etc. » Pour relâcher ces saisies et ces attachements de l'ego aux choses comme étant nôtres, nous les offrons au domaine du refuge et pratiquons la générosité. Vis-à-vis des êtres ordinaires, la pratique du mandala comprend les deux. Elle comprend aussi bien l'offrande vers l'éveil que la générosité vis-à-vis des êtres ordinaires. Dans la pratique de l'offrande du mandala, il y a une désappropriation. L'on offre tout ce que l'on a, l'on offre tout ce que l'on est, on se donne à l'éveil. Il y a une pratique de don, d'abandon, de dépossession, de désappropriation, en offrant dans une forme symbolique tout l'éveil, tout ce que je suis, tout ce que je vis et tout ce à quoi je pourrais être attaché. L'offrande des mandalas est un don complet en lequel nous adressons aux trois joyaux tout ce que nous avons, tout notre monde, tout ce qu'il y a de beau dans l'univers, tout ce que nous pouvons concevoir de joli et d'agréable. Cela sous la forme du mandala de l'univers, sous la forme symbolique de ce que l'on nomme le mandala de l'univers. Mandala est un terme sanskrit qui se dit en tibétain « kilkor ». Kil signifie centre et kor signifie périphérie. Donc, le mandala est cette structure ou cette société avec un centre et une périphérie. Une structure constituée d'un centre et d'une circonférence. Dans le cas du mandala de l'univers, le centre est la montagne axiale, le centre de l'univers autour duquel celui-ci pivote ou tourne. Et à la périphérie de ce centre, de cet axe, se trouvent les différents continents, qui sont différents états de la vie, avec en dessus et en dessous tous les plans d'existence supra- et infra-humains, tous les états de conscience, depuis les plus bas, les états infernaux, jusqu'aux plus élevés, les états divins. Donc, toutes les possibilités d'existence, d'expérience sont ainsi résumées dans ce mandala. C'est une représentation très profonde qui ne comprend pas seulement l'univers visible, mais inclut tous les plans d'existence, l'univers dans sa totalité. Nous offrons ce mandala universel en nombre infiniment grand, imaginant finalement autant de mandalas de l'univers qu'il y a d'atomes dans notre monde. Et nous les dédions tous à l'éveil. Donc, il y a là une offrande immense, une offrande infinie, une offrande qui dépasse ce que le mental peut concevoir. Chaque atome de notre monde étant un univers, et ainsi dans une imbrication infinie d'atomes univers, au-delà de tout ce qui est concevable, nous adressons ainsi tous ces mondes à l'éveil. Les bienfaits de la pratique sont à la mesure de l'ampleur de notre offrande. Et nous formulons le souhait que par cette immense offrande, tous les vivants atteignent l'éveil. Il y a ainsi, dans la pratique du mandala, une dimension de bodhicitta, d'esprit d'éveil du cœur, très vaste. Par le développement de bienfaits qu'engendre cette offrande illimitée, nous approchons celui d'intelligence immédiate. C'est ainsi que l'offrande du mandala est un double développement de bienfaits et d'intelligence immédiate. Un petit moment de pause, de méditation, d'intégration. Le dernier des préliminaires, nous ne parlerons pas de l'enceinte vide de A, est le yoga du lama ou guru yoga, le yoga du maître. Le yoga du lama est, suivant le sens du mot yoga, la pratique d'union au lama. Non. Yoga a le sens d'union, ce qui unit, l'unification. Et sa pratique est l'union au lama, l'union à l'esprit du lama, l'union à l'éveil qu'est l'esprit du lama. C'est le dernier des quatre Nanjo et aussi le plus important, car c'est par lui que nous recevons plus particulièrement l'influence spirituelle du lama, de la lignée et de l'éveil. Dans la pratique du Mahamudra, dans la pratique du Dzogchen, s'il est une pratique essentielle et fondamentale qui est toujours associée à la contemplation, c'est cette pratique du yoga du lama qui établit vraiment le lien interpersonnel avec le lama source, qui est le canal de l'influence spirituelle, de l'inspiration, et qui est aussi ce qui l'assurance, le lien sacré qui permet de ne pas dévier et de rester dans la pratique authentique. Cette influence spirituelle est l'élément par lequel la transmission et la transformation opèrent profondément. Elle pourrait être comparée au soleil, et notre esprit à une fleur qui pousse et s'épanouit naturellement sous ses rayons. Le yoga du lama développe Mugu, que l'on traduit souvent par dévotion, mais qui a le sens de respect, aspiration ou admiration, une qualité d'ouverture et de respect, d'humilité, un élan, admiration et aussi une retenue, un respect, cette qualité de dévotion qui est l'état dans lequel l'influence spirituelle, l'inspiration, se transmet ou se reçoit véritablement. Dans la pratique du yoga du lama, le lama, le maître, est l'aspect principal du refuge. Il les regroupe tous en sa personne. Il regroupe les trois joyaux, l'esprit du lama et Bouddha, sa parole et Dharma, son corps et Sangha. Il incorpore aussi les trois sources, l'esprit du lama et Yidam, sa parole et Dharmapala, le protecteur, et son corps et le lama. Le lama est ainsi l'union de tous les refuges. Il est considéré comme le Bouddha, Vajradhara lui-même. Son esprit est Dharmakaya, la nature de Vajradhara. Vajradhara, qui est la personnification du corps absolu. C'est ainsi qu'il devient possible, dans son canal, de s'ouvrir à son influence spirituelle. Il est dit, considérer le lama comme Bouddha transmet l'influence spirituelle de Bouddha. Considérer le lama comme Bodhisattva transmet l'influence spirituelle d'un bodhisattva. Considérer le lama comme un bon ami spirituel transmet une influence spirituelle correspondante. Considérer le lama comme un être ordinaire ne transmet aucune influence spirituelle. En méditant ainsi, nous adressons une prière intense et sincère. Et c'est dans notre dévotion, notre réceptivité, respect, admiration, tel que nous avions dit, que nous recevons son influence spirituelle. Une image traditionnelle compare le lama à une loupe focalisant les rayons du soleil, qui est l'influence spirituelle de tous les Bouddhas. Cette focalisation amène une intensité telle qu'elle peut alors enflammer l'amadou des voiles de notre esprit. C'est ainsi qu'il y a cet embrasement du feu sacré qui consume les voiles de l'esprit. C'est en ayant une confiance complète en leur lama que tous les grands maîtres de la lignée, tels que Naropa, Marpa, Milarepa et les autres, furent capables d'atteindre l'éveil de leur vivant. Un moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.